Chers auditeurs, bonjour à tous. Vous écoutez Culture Flip, l'émission culturelle à 360 degrés sur Radio Gaco, une émission produite et réalisée par les étudiants de DUT, gestion administrative et commerciale de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul car j'ai plusieurs chroniqueurs qui sont en ligne avec moi. On est là pour vous parler d'actualité et de culture. Je suis avec Eve, avec Martin.
Bonjour.
Et enfin, avec Pierre.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on vous a préparé une émission pour tous les goûts. Nous allons parler de musique, de cinéma, d'art et comment ne pas en parler en ce moment du coronavirus. Alors commençons sans plus attendre. Donc je vais vous parler du musée de l'illusion. C'est un musée pas comme les autres. Si je vous dis musée, que vous pensez à ces grandes pièces où personne ne fait de bruit sous peine d'être foudroyé du regard par le passionné d'art à côté de vous, celui qui regarde le même tableau depuis une heure et demie sans se lasser et toujours avec un air d'émerveillement, alors que bon, c'est juste le portrait d'une dame avec le regard certes un peu mystérieux. Ces endroits où on ne peut même pas sortir son téléphone ou prendre une photo. Alors écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire aimer les musées. Mais pas n'importe quel musée. Je vais vous parler du musée de l'illusion, qui se trouve au 98 rue Saint-Denis, à Paris. Ce musée révolutionne les codes du musée classique que vous visitez en classe de découverte au collège. En plus de vous cultiver, il va vous faire entrer dans le monde fascinant de l'illusion d'optique. Vous y trouverez même tout le nécessaire pour y faire votre meilleur post Instagram. Si ça, c'est pas génial. Ce musée a ouvert ses portes à Paris en décembre 2009, mais ce n'est pas le premier musée de ce type à ouvrir ses portes dans le monde. Le concept a été lancé pour la première fois à Zagreb, en Croatie, puis s'en est ouvert d'autres à New York, Shanghai, Athènes, Dubaï et Toronto. Plus de 70 illusions vous attendent dans ce musée. Pour les plus intéressés d'entre vous, une explication est donnée pour chaque illusion afin de vous permettre de comprendre comment fonctionne votre vue face à l'illusion et comment votre cerveau l'aperçoit.
Mais d'ailleurs, comment fonctionne-t-on face à l'illusion d'optique, Audrey ?
Alors, c'est très simple. À l'inverse des mammifères, les hommes n'ont pas l'ouïe ou l'odorat très développé, mais la vue. C'est grâce à elle que l'on peut facilement détecter les couleurs, les matières, le mouvement, enfin bref, tout notre environnement. Mais ce système visuel n'est pas parfait. Dans certaines situations, on ne traite pas bien les informations qui nous entourent et c'est alors qu'on est victime d'illusion d'optique. Sachant que le mot illusion en latin peut signifier tromper, une illusion d'optique est donc le fait de tromper notre œil. Et dans le cas de notre musée de l'illusion, l'illusion est provoquée dans le but de tromper notre cerveau. En plus de voir des tableaux ou des sculptures, vous verrez des pièces entières dont le but est de vous intégrer au décor pour provoquer l'illusion. Par exemple, une pièce défiant les lois de la gravité, malgré le fait qu'elle ait l'air totalement normale. Son sol est en réalité penché, ce qui va donner l'impression qu'une personne est très grande et que l'autre est très petite. Vous trouverez également la célèbre illusion de la pièce infinie grâce à une salle remplie de miroirs. Et bien sûr, le but de ces décors est de se prendre en photo. D'ailleurs, si on regarde sur Instagram les photos qui ont la location Musée de l'illusion, on peut en voir des milliers prises dans les différents décors. Et pour les personnes qui ne sauraient pas comment ou quoi prendre en photo, des pancartes indiquent où vous placer avec votre appareil photo afin d'avoir les meilleurs angles de vue pour voir l'illusion. Et si vous voulez être sur la photo avec vos amis, alors le personnel du musée est à votre disposition pour vous prendre en photo. Pour ceux à qui le célèbre portrait de la dame au regard mystérieux plaît, alors pas de panique, à la fin du musée, deux yeux vous suivent du regard pour votre sortie du musée. Comme vous vous en doutez, le coronavirus, qui aime bien mettre son grain de sel un peu partout en ce moment, a un peu changé l'organisation du musée, mais maintenant, il faut réserver un créneau sur Internet pour le visiter. Il est limité à un certain nombre de personnes, mais cela ne l'empêche en rien de cartonner tous les week-ends. Alors si vous n'avez rien de prévu ce week-end et que vous avez envie de mettre vos émotions et vos sens à rude épreuve, alors je vous invite, 15€ au tarif étudiant, d'aller visiter ce musée qui vous promet de vous faire oublier tous les problèmes actuels pendant une heure environ. Maintenant, Martin va m'emmener loin d'ici pour vous parler de voyage.
Effectivement, nous allons désormais parler du tourisme avec la Covid-19 pour voir comment celui-ci fait pour lutter contre le virus. Il est l'une des activités principales dans le monde suite à sa popularité. Le tourisme est très vague, on peut y retrouver le tourisme d'affaires, de nature, de détente, sportif, culturel, religieux, etc. Il en existe une multitude qu'il en serait impossible de tous les énumérer. Nous allons voir que certains types de tourisme sont encore possibles malgré la crise sanitaire qui touche notre société. On va tout d'abord voir le tourisme en France. Si on en croit les chiffres, la France est le pays qui s'en sortirait le mieux. Cet été, 53% des Français se sont déplacés pour faire du tourisme et 94% sont restés sur le territoire français. Mais malgré cela, la France estime des pertes potentielles de recettes touristiques globales entre 50 et 60 milliards d'euros pendant cette année 2020. Cela représente donc une baisse d'environ 35% de la consommation touristique annuelle. Nous pouvons donc voir que la France, qui est le pays qui s'en est le mieux sorti de cette crise sanitaire, concernant le tourisme, fait quand même d'énormes pertes.
Et le tourisme culturel, fait-il face à la crise sanitaire ?
C'est une très bonne question. La France est l'une des destinations les plus fréquentées en ce qui concerne le tourisme culturel. Pour répondre à cette question, il faut bien sûr, pour commencer, se remémorer le confinement qui a débuté le 16 mars. Suite à cette annonce, le tourisme culturel n'a pas eu le choix que de se réinventer. Cela était une grande première de voir que les visites, des musées par exemple, avaient explosé les records en virtuel. Nous ne pouvons cependant pas affirmer impacter celui-ci, retrouvé en perte durant le national. Durant la période post-confinement, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ne sont pas laissés abattre, ils ont tout mis en œuvre pour moderniser, mettre en valeur les lieux touristiques afin d'attirer de nouveau la population, les touristes. Ce n'est sans plus attendre que l'on se rend compte que cela reste véritablement compliqué, étant donné que ce qui faisait fonctionner le tourisme culturel n'était majoritairement pas les Français, mais plutôt les touristes étrangers. Pour illustrer cela, il n'y a rien de mieux que d'utiliser des chiffres. Avant cette période que l'on appelle le confinement, 80% des visiteurs du château de Versailles étaient des étrangers. En ce qui concerne le musée du Louvre, ils étaient 70%. Cela est plus parlant. Ce n'est pas le tout d'assimiler ces chiffres, mais de les comprendre. Et oui, ce qui veut dire qu'en cette période où chacun ne cesse de voyager, ou plutôt dans des cas certainement différents que pour du tourisme culturel, les musées et autres attractions culturelles ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient avant la Covid-19.
Et pour rester sur le tourisme culturel, comment envisage-t-on le futur de celui-ci ?
Ça reste compliqué. Cela est évident qu'il n'est pas facile à l'heure actuelle de définir quel est l'avenir en ce qui concerne le tourisme, sans même parler du tourisme culturel. Et ce, pour la simple et bonne raison que la Covid-19 n'est pas encore entre les mains de nos experts de la santé. Il reste donc aujourd'hui incontrôlable à l'échelle de l'humain. De ce fait, nous ne pouvons prévenir aucun domaine de la vie, le tourisme y compris. En revanche, nos spécialistes essayent tout de même de se projeter afin de rassurer tout le monde et tenter d'amortir nos temps futurs. Ils envisagent donc trois cas de figure. Le premier est vers le tourisme de proximité, le second vers un tourisme domestique et le dernier, le tourisme stop and go. Ces trois scénarios ne sont cependant que des approximations. Cela dépendra de l'avancée du virus. En d'autres termes, il n'est aucunement possible d'affirmer le futur. Il sera probablement possible de l'envisager une fois le virus sous contrôle, correctement connu de nos services de la santé afin de l'atténuer, voire l'éliminer et pouvoir enfin tout mettre en œuvre pour reconstruire le futur des différents domaines de la vie.
Merci. Pierre va maintenant nous parler d'un sujet très différent mais tout aussi intéressant, l'influence du rap dans la société.
Tout d'abord, ces dernières années, le rap a su s'imposer dans l'univers musical français. Cela se montre aisément quand on voit que sur les 10 albums les plus vendus en France l'année dernière, 5 étaient des albums de rap, ou encore que l'artiste le plus écouté de toute plateforme de streaming confondue est Drake, un rappeur américain. Cet essor a été favorisé par l'explosion de l'écoute en streaming avec des plateformes comme Spotify ou Deezer.
Mais comment le rap a-t-il réussi à devenir aussi mainstream lors de ces dernières années ?
Eh bien, c'est surtout car il a réussi à se détacher des clichés auxquels il était relié dans l'imaginaire populaire, que vous avez sûrement déjà entendu, des paroles débiles, de la musique trop violente, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on se penche un peu plus sur les textes des rappeurs en eux-mêmes. La réussite, l'amour ou encore la liberté sont autant de sujets que nous retrouvons souvent dans la musique urbaine, avec des textes remplis de sens qui, pour certains, nécessitent plusieurs écoutes afin d'en comprendre l'entièreté. Par ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'analyse de sons ou d'albums entiers de rap, c'est ce que fait la chaîne YouTube Le Règlement, qui possède plus de 900 000 abonnés grâce à des vidéos qui décortiquent les albums de rap les plus importants qui sortent, et il profite également de sa notoriété pour faire découvrir des nouveaux rappeurs. Le rap devient de plus en plus culturel à mesure qu'il se développe, à tel point que certains rappeurs deviennent égéries des plus grandes marques au monde, comme Moëlla Squall avec Lacoste ou récemment Booba avec Puma. Encore plus fort, une collaboration entre le rappeur américain Travis Scott et le jeu vidéo Fortnite a réuni plus de 12 millions de spectateurs lors d'un concert virtuel.
Et cette influence culturelle est-elle présente dans d'autres domaines ?
Bien sûr, on la retrouve également directement dans les paroles des rappeurs, qui arrivent à faire passer des messages importants dans des sons qui sont écoutés des millions de fois. Pour cela, on peut évoquer Nekfeu, qui utilise beaucoup ses textes pour dénoncer notamment le racisme, le sexisme ou encore le harcèlement, mais également des rappeurs qui dénoncent directement des faits d'actualité, comme Kalash Criminel avec le génocide au Congo, ou encore Medine avec la répression des Ouïghours. Le phénomène culturel qui est devenu le rap suscite de plus en plus d'engouement. On peut le voir notamment lors de la sortie du dernier album de PNL, qui fut très attendu par leur communauté et qui a été accompagné d'une importante communication avec un clip des deux rappeurs qu'ils ont tourné directement sur la Tour Eiffel. Un clip qui a d'ailleurs pulvérisé tous les records avec plus de 150 millions de vues à l'heure actuelle. Leur album fut une réussite immédiate, 113 000 ventes en une semaine et un disque de platine obtenu en seulement 5 jours. En bref, le rap est au centre de l'univers musical dans notre société, malgré qu'il ne soit pas écouté par tous, mais malgré tout, il reste majoritairement écouté par les plus jeunes et les adultes, ce qui porte à croire que le rap n'est pas encore arrivé au terme de son ascension et qu'il lui reste encore de longues années de longévité au sein de notre culture.
Et si nous continuons sur un petit point historique avec Eve ?
Eh oui, aujourd'hui nous allons parler des mémoires de guerre retransmises sous différentes formes. Nous avons tous déjà vu des films historiques, que ce soit au cinéma, dans votre salon ou à l'école. Les films de guerre sont de plus en plus représentés dans notre vie. Cependant, tous ces films ne retransmettent pas tous réellement l'histoire du passé. Prenons par exemple un film récent, Dunkerque, de Christopher Nolan, qui a été récompensé de 3 Oscars en 2018. Celui-ci raconte le rembarquement des troupes britanniques coincées dans la poche de Dunkerque. Il est le plus grand succès mondial en termes de recettes pour un film concernant la Seconde Guerre mondiale. Ce film racontant l'opération Dynamo est complètement immersif pour le spectateur, ce qui explique son succès en plus de la célébrité de son créateur. Mais celui-ci est plus considéré comme un film de survie qu'un film de guerre, car il raconte simplement le point de vue et les sentiments des personnages et non le poids des causes et les conséquences des implications politiques et militaires. Il peut même être qualifié d'anti-film de guerre, car je vous mets au défi de trouver à un seul moment du film le point de vue d'un soldat allemand ou français. As-tu trouvé, Audrey ?
Non, mais je sais une chose, c'est que comme avait Antoine de Saint-Exupéry, la guerre n'est pas une aventure, la guerre est une maladie, comme le typhus.
Eh bien, tu as raison. La plupart des films de notre époque font l'apologie d'un soldat héroïque qui, à sa manière, a participé grandement à la victoire. Ceux-ci peuvent être passés en partie, car la plupart du temps, ces histoires sont romancées, mais ces véritables histoires héroïques sont minimes par rapport à celles des autres soldats. La réalité des champs de bataille a été filmée par des journalistes pour montrer l'horreur des champs de bataille et est aujourd'hui utilisée dans des films comme images d'archives pour donner la plupart du temps de la crédibilité à certains films. Ces films d'archives sont quelque peu différents. Ils ont été tournés pour permettre aux médecins de comprendre mieux certaines maladies et symptômes que pouvaient ressentir certains soldats, comme c'est le cas de cet extrait de film.
Baptiste Deschamps est en enfer depuis 3 mois. Le 30 octobre 1914, sur le front des Flandres, plusieurs de ses camarades sont fauchés par une série d'obus. Il saute dans un fossé et se plie en deux, mais ne parvient plus à se redresser. On croit alors à une blessure physique. Baptiste Deschamps est évacué comme des centaines de milliers d'autres blessés vers les hôpitaux de l'arrière. Ces blessés sont tellement nombreux que les hôpitaux sont submergés. Il faut mobiliser 25 000 médecins, réquisitionner des lycées, des casinos, des hôtels, des châteaux, des asiles psychiatriques, comme ici, Maison Blanche, à l'est de Paris. Le corps médical est complètement dépassé, et surtout stupéfait par une incroyable catégorie de blessés sans blessure. Car la guerre est si dure que les corps se révoltent. Les jambes, par exemple, ne portent plus. Elles se dérobent, elles se défilent, elles tremblent comme des feuilles. Les médecins n'en reviennent pas.
Ce soldat est l'image représentant les dizaines de milliers de soldats ayant subi des troubles psychologiques. Dans un premier temps, ces soldats sont considérés comme des déserteurs et sont fusillés car leur chef pensait que c'était une manière de simuler pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Puis face au nombre de ces situations, les soldats ont été amenés à l'arrière pour pouvoir être soignés. Notre soldat, Baptiste Deschamps, va faire plus de 6 hôpitaux différents sans pouvoir être guéri. Lors de son dernier hôpital, il va rencontrer le médecin considéré comme le meilleur de son époque, Clovis Vincent. Celui-ci a pour habitude de soumettre ses patients à des courants électriques qui peuvent monter jusqu'à 70 volts, tout en les rabaissant par ses mots. Cette technique est utilisée pour prouver aux patients que ses muscles fonctionnent et qu'ils simulent. Il se basera sur des théories racistes pour expliquer les symptômes. Ce médecin patriote accompli va renvoyer au front une bonne partie de ses patients. Mais notre soldat, après avoir entendu des rumeurs concernant les techniques du médecin qui aurait déjà fait des morts, ne va pas se laisser faire, allant même jusqu'à se rebeller en lui mettant un coup de poing. Cet épisode le conduira face à la justice militaire. Baptiste Deschamps, après des années sans guérison, va être renvoyé chez lui sans solde et va passer le reste de sa vie à souffrir du mal qu'il a subi suite à la guerre. Après sa mort, les idées de Freud ont commencé à arriver en France et les témoignages des rescapés des camps ne donneront plus de crédibilité aux théories racistes.
Mais ce film dont tu nous parles, peut-il être considéré comme un film de guerre ?
Quand la guerre rend fou est plutôt un documentaire historique, mais il se rapproche plus du film de guerre car une grande partie des images sont des images d'archives non colorisées et racontent sans embellir les pensées et les actions de l'époque. La colorisation est un processus de plus en plus utilisé par les documentaires ou les films de guerre pour permettre une meilleure audience. La productrice d'Arte va expliquer que le film en noir et blanc sans son n'attire plus car il renvoie une idée trop lointaine pour les jeunes générations, alors que des films de guerre ou documentaires recolorisés peuvent attirer la jeune génération. Et toi Audrey, qu'en penses-tu ?
Je comprends parfaitement l'idée, mais je pense qu'il faudrait sûrement trouver un juste milieu entre ces films dignes de la science-fiction et ces documentaires complètement historiques.
Je pense aussi, mais il faut continuer à s'informer sur l'histoire, car comme disait André Malraux, ceux qui ne connaissent pas leur passé sont destinés à le revivre.
Eh bien, merci les amis, c'était super intéressant de vous écouter parler de culture. Chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.co.fr. N'hésitez pas à réagir sur notre fil Twitter, Gaco Studio, tout attaché. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Culture Flip. À bientôt!